Bienvenue, bienvenue à tous pour le 17e numéro d'En Spectateur, votre émission culturelle sur les ondes de Transistor. Alors je vous souhaite évidemment de passer une bonne année 2013 à l'écoute de Transistor, naturellement. Une année qui s'annonce très riche pour votre web radio préférée avec, évidemment, la deuxième édition de la journée de la radio le 29 mars prochain. Mais avant cela, le concours Frisson, troisième du nom, concours de création radiophonique, vous le connaissez, dont le thème est cette année « Vous avez 6 heures ». Alors à gagner de nombreux lots, dont des places d'opéra et de théâtre, grâce aux partenaires d'En Spectateur, parmi lesquels notamment le Théâtre des Marronniers. Et justement pour ce premier numéro de l'année, c'est là que je vous emmène tout de suite pour vous présenter Cahier d'un retour au pays natal, mis en scène par la compagnie Persona, autour du texte d'Aimé Césaire donc, et joué du mercredi 16 au lundi 28 janvier prochain. Alors pour en parler, je reçois Renaud Lécuyer, le metteur en scène, bonjour.
Bonjour.
Nègre je suis, nègre je resterai. C'est ce que déclarait en 2005, au soir de sa vie, Aimé Césaire, à l'historienne Françoise Vergès. Et c'est bien cela qu'il y a au centre du texte Cahier d'un retour au pays natal, première œuvre publiée en 1938 du poète dont on fête cette année le centenaire de la naissance, en juin 1913 à Basse-Pointe, en Martinique. Œuvre fondatrice donc pour Aimé Césaire. Ainsi, on retrouve ça dans votre pièce, forcément, qui adapte le texte, la question de l'identité et de l'altérité, ainsi qu'une plongée dans l'imaginaire complexe et fort d'un poème qui suggère un voyage dans l'histoire et la géographie du peuple noir, d'Afrique vers l'Amérique, des Antilles vers l'Europe et retour au pays natal. Alors avant de rentrer plus avant dans ce texte et dans votre pièce, j'aimerais que vous nous disiez ce qui vous a poussé à adapter ce texte. Comment avez-vous rencontré finalement la voix d'Aimé Césaire ?
Pour être honnête, j'ai du mal à m'en rappeler. Ça fait pas mal d'années maintenant que voilà, j'ai avec moi ce poème. Que j'ai avec moi, c'est-à-dire que je le lis, que j'en parle avec des amis, que quand je voyage, je l'évoque, que ce soit aux Antilles ou en Afrique ou ici en Europe. Et toujours, je me rends compte à quel point ce poème a fondé quelque chose d'important dans notre histoire d'humain. C'est ce moment où un Antillais qui, à l'époque, était étudiant à Normal Sup à Paris, à la rue d'Ulm.
Hein. Oui. Il y en a aussi.
Oui, il y en a aussi. Réalise qu'il est loin de son île, qu'il est loin de ses racines, qu'il est loin de lui-même, au fond. Et puis, pendant l'été, la plupart de ses copains de promotion rentrent dans leur famille en vacances, et lui il va dans ce qui s'appelait à l'époque la Yougoslavie, et il passe quelques jours de vacances chez un copain de promotion ou dans le village d'un de ses copains de promotion. Et puis en face de lui, sur la mer je pense Adriatique, il y a une île. Et il demande le nom de cette île, et son copain croate ou franco-yougoslave lui dit cette île, elle s'appelle c'est l'île de Martin, c'est Martinique. D'accord.
Une deuxième.
Et dans la nuit, il commence l'écriture de cahier d'un retour au pays natal. Alors cette histoire assez incroyable.
Un cahier donc à l'origine incroyable et qui a des répercussions politiques énormes. D'ailleurs, un commentateur de ce texte, François Bellou, parle de Césaire en disant que c'est un poète politique. Et donc finalement, cette rencontre que vous avez faite depuis toujours, et on l'a bien senti, qui hante votre parcours, c'est une rencontre avec un homme politique, c'est une rencontre, vous l'avez dit, avec une œuvre fondatrice. Une œuvre très particulière, écriture engagée évidemment, consubstantielle de sa facture surréaliste, avec un texte qui est écrit en prose. Donc on est loin de la versification qu'on attache traditionnellement, avec tous les guillemets et toutes les nuances qu'il faut attacher à ça, à la poésie. Mais une prose qui contribue à éloigner justement le texte de la pure poésie pour en faire quelque chose de l'épopée. Une épopée lyrique qui relate les différentes épreuves quasi-initiatiques de la quête identitaire du jeu césarien. Parce que Définitivement, avec Aimé Césaire, la poésie, ça devient un lieu pour être. Vous l'avez dit, il est loin de sa Martinique. Il découvre en plus qu'il y a une deuxième Martinique. Il est loin de ses racines. Et plus qu'une volonté, c'est une soif, c'est une quête, c'est une urgence de trouver une identité. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le texte. Alors comment on fait pour faire sortir ce lieu pour être qui est dans le texte, qui est dans cette poésie devenue épopée, et la mettre sur scène? Comment on fait? Et la question subsidiaire, c'est est-ce que le théâtre, ça peut être aussi un lieu pour être?
Je crois que profondément, le théâtre est le lieu de l'être. C'est pas le lieu du faire, c'est le lieu pour être, et c'est le lieu pour être à travers la parole. C'est-à-dire qu'au théâtre, le monde est appelé à être par la parole. J'ai beaucoup travaillé sur les textes de Valère Novarina, et c'est une des, peut-être une des choses que ce compagnonnage m'a profondément apporté. C'est que le monde existe parce qu'on peut le nommer, parce qu'on peut l'appeler. Le double sens de « appeler ». Comme le double sens de « personne », qui donne son nom à la compagnie, ouais, quasiment. Donc le théâtre que nous tentons de faire exister, c'est un théâtre de l'incarnation pour la parole. Théâtre de l'incarnation, c'est-à-dire permettre à une parole de prendre chair. Donc oui, il y a une dimension religieuse là-dedans, en tout cas spirituelle. Prendre chair, s'incarner dans une expérience qui est celle d'un corps parlant, c'est celui de l'acteur. Alors, pour se lancer dans une aventure comme celle de Caillé, eh bien, d'abord, on cherche un acteur. Et en l'occurrence, là, c'est parce qu'on avait travaillé sur d'autres textes que, à un moment, je me suis dit, bah, tiens, Joël Ouenou Lokosou, qui est béninois, qui travaille en Afrique et en France, il a un pied sur les deux continents. Je me suis dit, voilà, avec Joël, on pourrait tenter ça. Et Joël m'a dit, oui, ce texte, j'ai envie de le porter. J'ai envie de le dire, j'ai envie de le faire passer. C'est une histoire de voix, c'est une histoire de présence, c'est une histoire de corps. Dans ce poème, Césaire donne une voix, prête une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est dit d'ailleurs à la fin du premier tiers de l'œuvre. Donner sa voix à ceux qui n'ont pas de voix. Dans l'histoire, dans le présent, et en pensant aux générations qui viennent. Alors évidemment, ça s'incarne dans une réalité qui est celle du peuple noir dans le monde des années 30.
C'est la dimension extrêmement poétique que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce n'est pas forcément la dimension la plus intéressante de l'œuvre.
Non, ouais, je pense que ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que propose une sorte de transe de libération, de désaliénation, de désincarcération du ghetto dans lequel l'homme noir a été longtemps enfermé par l'homme blanc. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, enfin, je ne vais pas faire semblant. Donc toute la question, c'est celle de l'imaginaire. Moi, j'ai rapproché ça d'un livre qu'avait écrit il y a quelques années l'ancienne ministre de la Culture du Mali, Aminata Traoré. Ça s'appelait « Le viol de l'imaginaire ». Elle analysait ça, c'est-à-dire à quel point l'imaginaire de l'homme noir a été phagocyté par le monde blanc. Donc dans cette... ça commence par une révolte chez Césaire dans Caillé. Tout d'un coup, le sentiment de ne pas être à sa place ici en Europe, en France, et le désir de revenir sur sa terre auprès de son peuple. Donc ça, c'est tout le premier mouvement du poème. Après, il y a un deuxième mouvement important qui est celui de la quête de l'identité. Il le dit à un moment, qui et quel nous sommes, admirable question. Et puis la troisième partie de l'œuvre, après un long chemin dans la mémoire, dans la mémoire du peuple noir, dans évidemment le rappel des infamies, notamment la traite et notamment enfin l'esclavage. Après cette deuxième partie, il entre dans un, enfin le poème entre dans un troisième mouvement qui est celui de l'affirmation d'une identité. Et c'est là où apparaît le mot négritude. Je pense pour la première fois dans la littérature.
Oui, c'est un néologisme.
Et partant de l'affirmation de cette identité assumée d'homme noir, le poème se développe dans une sorte de d'immense prière un peu chamanique, à la fois pour avec le désir d'apaiser les blessures du peuple noir, et en même temps de dépasser le conflit.
Dépassement, parce que ça va, et vous le disiez tout à l'heure,
une forme de résolution à la fin.
Bien plus loin que ça. C'est pas juste l'homme noir qui est en question. Bien sûr que dans le contexte des années 30, c'est ça. Mais vous l'avez dit
dans
tout à l'heure.
Dans le poème, en tout cas. Oui.
Dans le poème, oui. C'est tout le monde qui peut se reconnaître, et c'est la force.
Une dimension totalement universelle. C'est en ça qu'il est au-delà du politique. Quelque chose de profondément, oui, intemporel, universel. C'est quelque chose qui a à voir avec... il touche à quelque chose de très, très important dans la condition humaine, au fond. Hein, c'est son, le rapport de l'homme à sa liberté. Il raconte aussi dans le poème comment le fait de pouvoir vivre sa culture, pouvoir la transmettre, permet de construire son identité et par là d'accéder librement et en conscience à ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté, ou en tout cas une citoyenneté du monde.
Une fraternité humaine.
Oui, oui.
Et par ces temps justement de nos temps, là je parle de notre temps, par ces temps de retour de certains nationalismes, de xénophobie, finalement ça fait du bien aussi d'entendre cette voix qui vient des années 1938 et qui semble tellement actuelle encore aujourd'hui. Finalement, votre mise en scène, c'est comme une nécessité aujourd'hui.
Alors est-ce que cette mise en scène est une nécessité? Ça, c'est pas à moi de le dire. Par contre... donner à entendre la parole d'Aimé Césaire aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire, c'est utile. Et ce qui fait cette force et aussi cette présence aujourd'hui du poème d'Aimé Césaire, c'est sa force poétique. C'est-à-dire que y a rien de plus politique que la poésie. La politique qui n'est que politique est souvent très médiocre.
On le voit au journal télé souvent, oui.
Voilà, on le voit très souvent, partout. Quand, tout d'un coup, il y en a eu quelques-uns quand même dans l'histoire humaine, des hommes avec une force et un imaginaire prophétique décident de se mettre debout pour dire... leur vérité et désirer la partager avec avec les autres humains, là ils acquièrent une force tellurique. Pour moi, Césaire rejoint ou a été rejoint par des gens comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, comme Gandhi. D'ailleurs, ce sont des personnalités qui dépasse la question proprement personnelle. C'est-à-dire que Césaire le dit dans son poème et puis l'a dit à d'autres occasions. À travers lui, c'est tout un peuple qui parle, c'est toute une humanité qui demande à être entendue. Et force est de constater qu'aujourd'hui, au début du troisième millénaire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos frères humains, hein, qui, au même temps que nous vivent, ou après nous vivrons, ne sont pas entendus, n'ont pas la parole. Or, c'est bien la possibilité de parler qui nous rend humains et qui nous permet de nous considérer humains. Donc quand on prive quelqu'un de la parole, soit comme on le fait dans les pays matérialistes, en les enfermant dans le bavardage des perroquets, soit dans certains dans certaines colonies du monde occidental en leur interdisant au fond de s'exprimer, ben à chaque fois on touche à l'humanité des humains. Et quand on accepte consciemment ou inconsciemment que l'humanité d'une personne soit réduite, soit niée, eh bien c'est sa propre humanité en réalité qu'on détruit. Et c'est bien ça qui est en jeu aujourd'hui, tous les jours dans notre société. C'est-à-dire que nous acceptons que notre part d'humanité diminue sous la pression des experts, des technocrates, des techniciens, des marchands. Et à chaque fois qu'on accepte de laisser cette part d'humanité en nous diminuer ou se dévaloriser, on rentre un peu plus dans la barbarie.
Alors, une force surhumaine à vous écouter que ce texte, et une force qui est attirée dans le voyage intérieur qu'a fait Aimé Césaire, une force attirée aussi d'un voyage qu'il a fait presque géographiquement. On le parlait tout à l'heure, ce voyage du peuple noir, son voyage personnel, et on ne peut pas penser à votre pièce, puisque vous aussi, vous allez faire un voyage.
Nous aussi, on va faire un voyage.
Un grand périple.
Oui.
Et qui va vous donner de la force aussi, j'espère, dans cette création, puisque c'est pas juste un voyage pour présenter le spectacle, c'est pour
tout
le recréer.
Oui, c'est l'idée de partager la poésie d'Aimé Césaire avec d'autres peuples. Créer ce spectacle à Lyon, c'est passionnant. C'est passionnant aussi parce qu'il y a déjà cette rencontre, ce voyage avec cet acteur béninois, Joël Lecoussou, qui est quelqu'un de tout à fait étonnant. Pour moi, une sorte de griot ou de chaman. C'est-à-dire qu'il appartient à une autre culture que la nôtre, profondément. Confiait l'autre jour que sa maman était prêtresse d'un culte vaudou là-bas au Bénin. Enfin, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Alors on a imaginé un voyage, oui, on a imaginé d'aller avec le poème d'Aimé Césaire et dans le cadre du centenaire de sa naissance à la rencontre de différents peuples. Et donc on ira bientôt en Algérie, à Tizi Ouzou, invité par un festival de culture berbère. Festival de culture à Mazirt. Ensuite, on ira au Bénin, au Sénégal, et puis dans d'autres pays, j'espère, avec l'idée de recréer ce travail, ce poème, au cours d'une performance spectaculaire, mais inventée avec les habitants et puis pour eux. Alors en fait, là, c'est tout simple, on emmène l'acteur, on emmène le texte, la scénographe n'emmène pas son décor, mais elle va travailler là-bas, sur place, avec les matériaux et les bonnes volontés ou les désirs disponibles, à recréer des espaces pour faire danser ce texte et cette œuvre. Et pareil, le compositeur, il n'emmène pas sa bande-son, mais il va travailler avec des musiciens, des chanteurs, des danseurs, pour recréer ce poème. In situ,
c'est ce qu'on appelle du spectacle vivant.
C'est ce qu'on appelle peut-être comment on pourrait appeler ça. J'espère que ça sera vivant. Alors bon, le concept de spectacle vivant, j'ai un petit peu du mal, mais
pourquoi ?
Du théâtre, tout simplement. Parce que si c'est du spectacle mort, ça n'existe même pas. Donc voilà, c'est des catégories inventées par tout ça, spectacle vivant, tout ça. C'est des catégories inventées par les techniciens des ministères pour séparer. Et à chaque fois qu'on sépare, on met des cloisons, on divise. Et puis diviser, ça permet de réduire les lignes budgétaires. Donc il y a toujours une logique écono-experto-technique là-dessous.
Non, justement, ça, vous n'allez pas divisé dans vos spectacles. Parce
non,
que
au contraire.
En lisant, on voit bien que l'acteur, Joël Locossou, il va vraiment être au milieu d'un spectacle pluridisciplinaire. On va avoir à la fois des arts plastiques, de la musique, des aspects chorégraphiques.
Tout à fait.
Et puis le texte, évidemment.
Bien sûr.
Alors, pourquoi
et c'est la fusion qu'on cherche. C'est la fusion
mais
entre
pourquoi cette fusion, justement, là?
Ah bah parce que c'est... parce que on rejoint une chose qui est sans doute à l'origine du théâtre européen et qu'on a perdu nous, ce que les Grecs de l'époque de Sophocle ou d'Euripide appelaient le komos, qui veut dire fusion. Le komos, c'était un moment tout particulier dans la tragédie à l'époque des Dionysies. Donc en Grèce il y a 500 ans, enfin à Athènes. Et le komos, c'était un moment dans lequel monde fusion, dans lequel le texte du poète, l'acteur, la musique, la danse, le type de parole, c'est-à-dire le passage souvent d'un discours en prose à des éléments versifiés ou à un autre type de prosodie, des effets scéniques, etc., se réunissaient pour obtenir un maximum d'intensité émotionnelle et sensible et percuter l'auditeur, le participant à ce moment rituel. C'est l'époque où le théâtre était un rituel. Aujourd'hui, c'est devenu...
une convention.
Une convention et même maintenant un produit pour les abonnements. Donc on a un peu perdu le lien avec tout ça. Et dans ce poème d'Aimé Césaire, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre de la transe, qui est de l'ordre
de
l'expérience. Oui, c'est une cérémonie. Je pense que le temps et l'espace du théâtre sont pour une cérémonie entre les humains, qui sont des moments où des humains se disent une chose très simple. Nous allons mourir un jour. Et nous le savons. Et c'est la possibilité de se le dire de part et l'autre de la scène qui fonde au fond notre humanité.
On y revient à la question de l'humanité. On ne l'a jamais quitté.
On l'a jamais quitté. Et le théâtre a pour moi cette fonction essentielle qu'il est en train de perdre ici. Bon. Sous la pression d'une évolution, d'une mutation anthropologique de nos sociétés. Ça évolue, ça se réfugie ailleurs, ça se réfugie sous d'autres formes d'expression artistique, mais c'est toujours présent. Et c'est encore plus présent quand, par moment, on croise des acteurs comme Joël et des poèmes comme celui d'Aimé Césaire. Et profondément, il y a quelque chose qui est de l'ordre du chamanisme là-dedans. Des moments où un poète propose de s'assembler, de se réunir autour d'un rituel performatif de théâtre pour célébrer ensemble la joie d'être vivant et de dépasser nos contradictions, en l'occurrence là, le racisme, la xénophobie... qui bien sûr font du mal.
Alors, avant cette cérémonie, qui aura donc lieu du 16 au 28 janvier aux Têtes des Marronniers, il y a un hommage, c'est aussi une forme de cérémonie,
tout à fait.
Qui aura lieu le vendredi 11 janvier à 19h, à la Maison des Passages. Alors c'est évidemment en partenariat avec votre compagnie et avec le Têtes des Marronniers, et c'est une soirée autour d'Aimé Césaire pour son centenaire. Alors, rapidement, quelques mots sur cette soirée.
Quelques mots sur cette soirée. Oui, rendre hommage à un grand poète, c'est pour nous quelque chose d'important. C'est lui consacrer officiellement une soirée. Bon, voilà, personne ne nous le demande, hein, évidemment. Personne ne nous le demande et en même temps, ça nous semblait très important. Alors, c'est l'occasion aussi d'inviter Sarah Maldoror, qui était une grande amie d'Aimé Césaire, qui est cinéaste, qui est une femme tout à fait exceptionnelle. Et puis, les éditions Présence Africaine, qui font depuis avant la Seconde Guerre mondiale un travail assez fabuleux d'édition Et notamment des textes des grands poètes, dramaturges, essayistes, intellectuels de ces sociétés-là, notamment du continent africain et au-delà, qui ont été depuis toujours les éditeurs de l'œuvre d'Aimé Césaire. Mais Césaire, c'est quand même une œuvre extrêmement importante. Il y a la poésie extraordinaire. On peut citer notamment le recueil Moi, la minère, qui est extraordinaire, avec notamment ses textes comme J'habite une blessure sacrée, c'est sublime. Son théâtre, des choses magnifiques dans son théâtre. Une saison au Congo autour de la figure de Patrice Lumumba, qui pourrait inspirer une certaine forme de relecture de l'histoire africaine contemporaine, et des relations entre l'Afrique et l'Occident. Mais aussi tout son travail d'essayiste, de polémiste, discours sur le colonialisme, sa lettre à Maurice Thorez. C'est incroyable, sa lettre à Maurice Thorez. C'est au milieu des années 50, sa rupture avec le Parti communiste et sa lucidité sur ce que le Parti communiste est alors, et qui n'est pas sans évoquer certains errements d'autres partis démocratiques aujourd'hui. Très intéressant.
Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité, ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Un petit peu plus loin dans le poème. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. Alors on ne pouvait pas finir cette émission sans citer les mots d'Aimé Césaire, on en a tellement parlé, n'est-ce pas ?
Oui, ce sont des très très beaux passages. Mais le poème est magnifique, et alors depuis qu'on travaille à fabriquer cet objet, préparer cette cérémonie, je me rends compte à quel point beaucoup 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 de personnes ont une relation très 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 intime, très très fidèle avec Aimé Césaire, voilà, des tas de gens de tous horizons, c'est tout à fait étonnant.
Alors des mots d'Aimé Césaire que vous retrouverez sur la scène du Théâtre des Marronniers du 16 au 28 janvier, ainsi que donc pour l'hommage à Aimé Césaire dans la totalité de son œuvre, le vendredi 11 janvier à 19h à la Maison des Passages. Un spectacle, ce n'est évidemment pas le seul metteur en scène que je remercie d'être venu, Renaud Lécuyer. C'est toute une équipe. On a cité l'acteur Joël Locoussou. Il faut citer à la scénographie Mathilde Furbaco, à la création de lumière Jérôme Allaire, à la photographie Émile Zézig, à la création musicale Stéphane Lam, en collaboration avec Meg Mouken de Varagen.
Oui, c'est amusant parce que Stéphane Lam, le compositeur de nos paysages sonores, c'est le fils de Wilfredo Lam. Et Wilfredo Lam, c'est ce grand peintre sud-américain. Il y a quelques toiles de lui, par exemple, au Musée des Beaux-Arts à Lyon. Donc, j'invite les auditeurs à aller les visiter. C'est une peinture qui... Le nom n'est peut-être pas hyper connu, encore qu'il ait fait quelques rétrospectives avec Picasso, Grand Palais, des choses comme ça. C'était un ami de Césaire, c'était un très grand ami de Césaire, ce qui fait que Stéphane, quand il était petit, a connu Aimé Césaire.
Une histoire de famille, finalement.
Oui, au sens où les humains sont profondément reliés entre eux. Après, il faut ouvrir les yeux et les oreilles.
Eh bien, c'est ce qu'on fera au Théâtre des Marronniers, mais pas seulement. Je vous remercie, Renaud Lécuyer, d'être venu. Merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours fidèles à En Spectateur. Merci à Antoine, à la technique. Alors, pendant les vacances de Noël, je vous proposais un numéro spécial d'En Spectateur, rediffusion du concert de décembre dernier du club de musique de chambre de l'ENS, avec au programme Debussy, Chopin, Ketelbe ou Shostakovich. Une heure de musique classique, une heure de poésie, une heure assez hors du temps pour un concert exceptionnel auquel j'ai assisté. Alors si vous étiez trop absorbé par les descentes de ski ou le gavage de chocolat, il est toujours temps d'écouter ou de réécouter ce joli cadeau musical de Noël. En tous les cas, je vous souhaite une bonne année, et surtout, en 2013, n'oubliez pas d'aller au théâtre, au cinéma ou à l'opéra. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.